C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Il y a des histoires que le grand public pense connaître sur le bout des doigts, celles qu'on a découvertes enfant, celles qu'on retrouve en film, en livre ou en série. Mais les connaissons-nous vraiment si bien, ces histoires ? Faisons le test aujourd'hui avec un fait divers fameux, le naufrage du Titanic, bateau transatlantique lancé dans son voyage inaugural. Pour nous aider à y voir plus clair, la fine équipe d'historiens de l'Histoire avec un grand I, Alexandre Belin, bonjour.
Bien le bonjour.
Julien Marel, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Thierry Lafleur, bonjour.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question pour vous, messieurs, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le Titanic ?
Oui, donc le Titanic, c'est un paquebot qui fait la transatlantique au début du XXe siècle. Voilà, qui est un célèbre bateau puisqu'il est connu pour ses frasques et c'est le luxe qui s'en dégage.
Tout à fait. Un paquebot conçu et piloté par la même personne.
C'est vrai.
Jérémy Carban, qui, à l'aube du XXe siècle, conçoit ce bateau. C'était son rêve de traverser l'Atlantique par cette voie et décide de lancer le premier trajet inaugural du Titanic.
Jérémy Carban, quelle est son histoire ? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà remarqué avant ce premier bateau ?
Avant ce projet-là, non. Il avait été remarqué par les gens qui s'y connaissaient dans le métier des chantiers navaux. Mais non, à part ça, voilà, Jérémy Carban n'était pas connu. C'est que vraiment le projet de la construction du Titanic qui va le révéler au grand public. Avant cela, c'était un nobody, comme on disait en Irlande.
Oui, quand même, il nous vient d'Irlande, c'est ce qu'on sait. Jérémy Carban, il est né en 1882, quand il a 30 ans que le Titanic commence à faire sa première transatlantique. Mm-hmm. Un nobody, effectivement. Il est notamment quand même connu pour pouvoir faire. Il est champion de calèche, quand même.
Oui, bah, il a gagné une ou deux courses locales de calèche.
Voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont l'histoire...
Non, ça n'a rien à voir.
De la même façon, il a traversé le bras de mer qui sépare l'Irlande de l'Angleterre plusieurs fois à la voile.
Mais beaucoup de gens le font.
Voilà, c'est assez... Voilà, oui. Non, c'est un homme simple, mais c'est le projet de sa vie, par contre, le Titanic. C'est quelque chose auquel il a dévoué beaucoup de son temps et de son énergie.
Et comment est-ce qu'on explique cet attrait à créer des paquebots ? C'est pas commun, quand même.
Non, à créer des bateaux,
en général.
Voilà, le paquebot qui est présenté à l'époque comme le plus grand... Le Titanic est présenté comme le plus grand paquebot jamais construit. Donc voilà, c'est pour ça que le projet va l'attirer énormément. D'ailleurs, il voudra tout faire tout seul. Il va passer les trois premiers mois du chantier à tout faire tout seul jusqu'à ce qu'on lui dise « Bon, Jérémy... »
On a pour 100 ans. Hein.
Voilà, ça va être trop long. Mais avant ça, voilà, il construisait tous ses bateaux, lui tout seul, pour passer le bras de mer entre l'Irlande et le continent du Royaume-Uni. C'était des bateaux qu'il construisait lui-même.
Oui.
Ça, c'est une caractéristique forte chez Jérémy Carban, c'est cette proportion à se croire fort et à vouloir tout faire tout seul. Il a cette volonté d'autonomie et de tout contrôler sur ce qui se passe. Et donc, à bord du Titanic, il est le seul capitaine, mais il est aussi son second et il est aussi son...
Il fait tout. Causera peut-être la perte de ce bateau et de cet homme, finalement. Enfin,
oui.
On y reviendra tout à l'heure, mais...
Mais voilà, et je ne parle pas juste du pilotage, je tiens à insister là-dessus parce que c'est important dans l'histoire. Voilà, les cuisines, c'est lui qui distrayait ses convives en jouant du piano, et c'était un magnifique pianiste. Et donc voilà, il fait très peu d'équipage à la bord du Titanic. Il y avait Jérémy Carban et quelques personnes pour le relayer lorsqu'il dort, mais c'est tout.
Et d'où lui vient ces connaissances nécessaires pour créer des bateaux en tout genre ?
Il fait ça depuis qu'il est tout petit.
Il fait ça depuis qu'il est tout petit, voilà. Et ça suffit.
Depuis qu'il est tout petit, bah après il avait un papa qui travaillait au port, qui était pêcheur, donc en fait il traînait tout le temps près du port, près des bateaux, etc. Donc oui, ça lui vient depuis tout petit Et puis ouais, c'est à force de faire, quoi. Parce qu'il a vraiment fait ça toute
sa
vie.
C'est un autodidacte brillant, qui apprendra beaucoup de choses.
Il n'a d'ailleurs pas été à l'école. C'est un peu ce qui fait sa spécificité aussi, c'est que son père ne l'a même pas inscrit une seule fois de sa vie à l'école. Il n'a même pas foulé une seule école de sa vie.
Non, il a pas foulé une école de sa vie, il a vécu l'école de la vie. C'était pas clair, c'était Titanic, le son de Nekfeu. Sur le dernier album.
J'aime beaucoup.
Ouais. Il a pas foulé une école de sa vie, il a fait l'école de la vie.
Mm-hmm. C'est un album Mère de glace, non ?
Oui, qui est un hommage à Jérémy Carbon, tout à fait.
Comment se déroule le projet du Titanic ? Parce que je suppose qu'il va falloir collecter des fonds, monter une équipe, peut-être pas au début, vous avez dit qu'il a démarré tout seul. Néanmoins, bon, il y a quand même besoin d'un peu d'argent, des matériaux, etc. Quels sont les débuts de cette histoire ? Quels sont les débuts de ça ?
Vous savez, tout le monde fait des paquebots à cette époque-là. Tout le monde a envie d'aller en Amérique. C'est le moyen le plus simple. Il y a des fonds. Il y a des fonds pour y aller.
Chaque ville côtière en Irlande, en fait, a son propre projet de paquebot.
Et son propre Jérémy Carbon. Qui sort la spécificité de notre homme autodidacte du jour et dépourvu d'une notion de management. Mais effectivement, toutes les villes côtières ont leur propre projet de paquebot.
Et c'est pour ça que ça a marqué tant que ça l'histoire. Parce que dans le film, on ne le voit pas, ça, dans le film très connu qui est sorti sur grand écran. C'est que chaque ville côtière donc d'Irlande avait son propre paquebot, avait construit son propre paquebot. Ils feront tous naufrage à la sortie du port, instantanément. Donc avec très peu de victimes, parce que tout près de la côte. Et celui de Jérémy Carbon, donc le Titanic, il va réussir à partir. Et alors là, c'est vraiment la consécration, justement. Ça y est, on y est arrivé. Nous, Irlandais, nous avons envoyé un paquebot en Amérique.
On l'appelait l'insubmersible à l'époque.
Mais oui, parce qu'il avait réussi à quitter le port. Et Jérémy Carbon, il avait, je pense que c'est ce qui le distingue aussi, je veux dire, les villes d'Irlande voulaient aller en Amérique parce que c'est la terre promise. C'est une nouvelle terre qui peut s'offrir à nous. C'est une volonté de s'échapper. Jérémy Carbon, il avait une vraie raison d'aller en Amérique. Il y avait son frère qui vivait là-bas. Mm-hmm. Et à l'époque, Alexandre l'a rappelé, c'est la manière la plus simple d'aller en Amérique. Et donc, il décide d'y aller par ce biais pour rejoindre son frère.
Et quelle est l'atmosphère en Irlande ? Du coup, j'ai l'impression que, à vous écouter, là, qu'il y a un peu la course entre chaque ville côtière. Qui est la première ville qui va mettre un paquebot à l'eau et qui va sortir du port.
Oui, à ce moment-là, oui, c'est vrai qu'il y a cette petite compétition qui se met en place, mais il n'y a rien d'officiel. Vu que les projets se chevauchent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes irlandaises qui veulent sortir leur paquebot en premier. Certains sortiront beaucoup trop tôt. On pense à ce paquebot qui a été lancé, il était parti de Cork sans que la salle des machines ait été réalisée. Donc en fait, c'était juste une coque de métal sans moteur qui a mis longtemps à couler, parce qu'il flottait très bien, il n'était pas lourd du tout. Mais voilà, le paquebot de Cork, oui, ça a été...
Mais totalement immobile, quoi.
Attendez, vous rigolez, mais le paquebot de...
Galway.
Le paquebot de Galway n'était pas mieux non plus. Il n'avait fait que le nez, que l'avant du bateau, qu'ils avaient envoyé à la sortie du port. Et on peut toujours aussi le voir à l'heure actuelle, si vous allez à Galway, vous voyez ce bateau qui en métal qui sort de l'eau, et on a l'impression que juste le nez en sort, mais en fait non, c'est qu'il n'y avait que le nez
qui
a été réalisé. Et le nez flotte à la surface de l'eau, toujours. Ok. Donc si on en revient au Titanic, donc il est mis à l'eau et il sort du port
en 1912.
Comment est-ce qu'on va récolter des gens qui sont ok, qui sont partants pour faire cette traversée là, sachant que on a compris, il y a quand même plein de bateaux qui prouvent qu'ils sont pas super sûrs, quoi.
Là pour le coup il y a la renommée de Jérémy Carbon qui fait que sur ce bateau là les places coûtent plutôt cher, c'est pour ça qu'on va avoir du coup des passagers plutôt fortunés sur ce bateau. Mais oui, à ce moment-là, en 1912, quand le bateau quitte le port, on est persuadé que ce bateau est insubmersible. Justement, on n'a pas besoin d'attendre qu'il quitte le port pour le savoir, on le sait déjà. Et en fait, justement, le fait qu'il réussisse à aller aussi loin, ça n'a rien d'extraordinaire à cette époque-là. C'est plaisant, bien sûr, pour le peuple irlandais, mais ça n'a rien d'extraordinaire.
Oui, il y a d'autres villes et d'autres pays qui ont déjà réussi à faire de la transatlantique plusieurs fois.
Bien sûr.
Tout à fait. Mais vous l'avez rappelé, Thierry, c'est on y va aussi pour Jérémy Carbon lorsqu'on est passager de ce bateau. parce que bah, il avait, voilà, déjà, il a l'avantage de, quand vous le rencontrez, vous rencontrez tout l'équipage du bateau d'un seul coup. Et il y avait un dicton à cette époque qui disait « Un homme, ça va, deux hommes, bonjour les dégâts » en Irlande. Mmh. Et bah là, il n'y avait qu'un homme, donc au revoir les dégâts. Mmh. Donc ça rassurait quand même. On connaissait la personne qui allait nous servir à manger, on connaissait la personne qui barrait, parce que c'était la même personne.
Les Irlandais étant très superstitieux en plus, donc tout le monde faisait vraiment confiance aveugle à ce proverbe en disant qu'en la personne de Jeremy Carmoy, il ne pouvait y avoir aucun dégât.
On l'appelait « the man of everything
mmh. ». The man of everything.
Exactement. Passer de « nobody » à « man of everything ».
Très bien. Alors avant de détailler, on va dire, cette première traversée, je vous propose une petite pause musicale. Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. Vous l'avez reconnu, c'était My Heart Will Go On de Céline Dion. On s'était quitté en décrivant les prémices de ce début de traversée. Est-ce qu'on peut en dire plus? Combien de personnes? Quelles sont les activités? Combien de temps ça dure? Quelle est l'ambiance?
Ouais, donc 1 million de personnes dans le paquebot. Comme on disait au début de l'émission, des frasques, hein, c'est le luxe. Donc au niveau des activités, c'est pool party, c'est piscine, c'est des grandes réceptions dans la salle principale.
Des petits fours préparés par Jeremy Carban.
Par Jeremy Carban lui-même. Effectivement, c'est aussi Jeremy qui est surveillant de baignade
également.
Pendant les pool parties. Il est aussi DJ, il mixe.
Il joue du. À l'époque, mixer. Oui, bien sûr. Pourrait expliquer aux auditeurs. À l'époque, mixer, ça veut dire jouer de plusieurs instruments en même temps.
Bien sûr.
Donc, il joue du piano et de la batterie avec les pieds.
Mais c'est aussi parce que c'est un des précurseurs, justement, dans ce domaine, de faire plusieurs instruments en même temps. Ce qui rajoute aussi à l'aura de Jeremy Carban et de ce man of everything.
Et donc, ça, c'est ce qui se passe justement pendant les 2 premiers jours de traversée, où tout se passe vraiment
merveille.
À merveille. C'est merveilleux, Jérémy Carban assure tout. Et à l'aube du troisième jour, on commence à voir les faiblesses du système Jérémy Carban.
Il fatigue.
Ben oui, alors qu'il donnait un massage à une cliente fortunée, la machine se met à fumer et donc il doit interrompre son massage pour aller voir ce qui se passe en salle des machines. Cependant, pendant ce temps-là, son bouillon qui était sur le feu déborde, se déverse dans la cuisine. Et donc là, il y a une série d'événements qui s'enchaînent.
Un enfant manque de se noyer dans la piscine à ce moment-là, alors qu'il était censé être en train de la surveiller. Mais il était en train de courir à son bouillon qu'il entendait justement en train de bouillir beaucoup trop. Donc voilà, c'est à ce moment-là, c'est un peu la débandade. À l'aube du troisième jour, on commence à voir. L'affaire va être réglée. À midi, tout va mieux. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'en sortir, mais on a vu la faille.
Ouais, le puis c'est cette pseudo-noyade du petit Timothy Chalet a mis le feu aux poudres et une bonne partie, en tout cas des gens qui sont venus faire la traversée commencent à remettre en question cet homme qui fait tout et on lui demande de prendre de l'aide.
Mais on sait qu'il y a à bord d'autres gens qui peuvent l'aider, qui sont en fait la garde de nuit, entre guillemets, qui lorsque Jérémy se repose, parce que ça reste un homme, prennent les contrôles du bateau. Donc il y a une vingtaine de personnes qui peuvent être affectées à différentes tâches, que ce soit le pilotage du navire ou la surveillance de la baignade. Mais Jérémy refuse.
Jérémy refuse.
Le Titanic, c'est son œuvre, c'est à lui.
Il refuse et il prend des mesures. Et c'est là où justement la part sombre de Jérémy fait surface.
Quel genre de mesures est-ce qu'il va mettre en place pour du coup contrôler mieux, on va dire, son emploi du temps, ou en tout cas ses contraintes parce que là, on imagine que pour assumer cet ego fort qu'il a de tout vouloir contrôler, il va falloir qu'il fasse des choix.
Ah bah oui, non, mais quand je vous dis que la part sombre se dévoile, on est vraiment dans quelque chose de grave. Jérémy donc fait prisonnier une partie des passagers qui avaient critiqué ses méthodes. Les parents de l'enfant qui avait failli se noyer, qui étaient très remontés. Ils sont jetés par-dessus bord par la proue du bateau. Donc une planche est installée pour les faire sauter par-dessus bord. Donc voilà, les victimes du Titanic, bien sûr, on en parle suite au terrible accident. Mais avant ça, il a commencé déjà à avoir des victimes. Donc on est au soir du troisième jour. Le naufrage a eu lieu le cinquième jour de traversée. Et déjà, dès le troisième jour, il y a les premiers morts, il y a les premiers drames sur ce bateau.
Quelle est l'ambiance pour le reste des passagers sur ce paquebot ?
L'ambiance est refroidie.
Ouais, c'est un peu morose. Jérémy refuse de donner des massages. Il fait des plats beaucoup plus simples. Lui qui était un excellent cuisinier, c'est fini les petits bouillons de homard. Maintenant, c'est purée de pommes de terre pour tout le monde.
Il n'y a plus de musique.
La piscine est fermée.
Donc voilà, on commence un peu à s'ennuyer et à sentir... Puis c'est difficile de dormir avec les cris des passagers emprisonnés...
En salle des machines.
En salle des machines.
Donc ça, c'était, vous avez dit, le soir du troisième jour.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui va se passer le lendemain ?
Ce qui va se passer le lendemain est assez grave, puisqu'en fait, donc, il se sera octroyé quand même une petite sieste, Jérémy, pendant cette nuit. C'est ce qui se dit, hein, peut-être. Enfin, moi, je me dis, quand on fait des erreurs comme ça, peut-être qu'on ne ferme pas l'œil de la nuit. Mais ce matin-là, alors que Jérémy sort de sa cabine de capitaine, il manque un canot de sauvetage. Un canot de sauvetage avec lequel se seraient échappés des passagers. En fait, on n'a pas les noms parce qu'on ne sait pas si ces passagers sont morts pendant le naufrage ou au moment d'essayer de s'échapper.
Ils sont partis pendant le pire moment de la traversée, ils étaient vraiment au milieu. Donc on pense que, a priori, ces passagers sont décédés. Hein.
On n'a jamais retrouvé aucune trace de cette embarcation.
Tout à fait.
Mais voilà, et en fait, ça met vraiment le feu aux poudres et ça le met hors de lui. Et à ce moment-là, il fait couper tous les cordages des canots de sauvetage. Donc tous les canots de sauvetage qui sont mis directement à l'eau. Et donc ça fait partie du drame, en fait.
Personne
ne s'en va de ce bateau. Et en fait, mis bout à bout, on voit comment on est arrivé finalement à ce drame terrible final.
Donc là, pendant le quatrième jour, on arrive sur un schéma, on est sur une prison sur l'eau. Pour les passagers,
oui, complètement.
Il n'y a plus aucune issue de secours, ils sont complètement cadenassés, on va dire, dans leur habitude de la journée parce que Jérémy veut bien faire. Qu'est-ce qui amène néanmoins au naufrage du cinquième jour?
En fait, ce qui va se passer, il y a autre chose qui est intéressant, et d'ailleurs, Julien en a parlé. Donc c'est dans la nuit du quatrième au cinquième jour, donc c'est vraiment juste avant que le soleil se lève. Il est dit, on le sait parce qu'on a on a récupéré la boîte noire du bateau, qu'un appel avait été reçu par le Titanic depuis New York City, qui avait été émis par le frère de Jérémy, qui l'a appelé ce soir-là sur le bateau, et ça coïncide avec un changement de trajectoire au même instant sur le bateau.
On pense qu'il s'est brouillé avec son frère. En tout cas, que quelque chose lui a fait perdre l'envie d'arriver à tout prix à New York. Et à partir de là, il fait changer de trajectoire au bateau.
C'est pour ça qu'il voulait y aller à la base. Bah, tout à fait. Pour voir son frère là-bas.
Et c'était sa motivation forte. Mmh. Et il fait changer de trajectoire au bateau. Et il va dans la salle à manger pour servir le repas du soir à ce moment-là. Et lorsque quelqu'un sur le pont crie « Glace, glace !», il pense juste que c'est quelqu'un qui a fini de son déjeuner, enfin son dîner, et qui voulait le dessert. Mais bien loin de ça, la réalité, c'était en fait un iceberg qui était droit face au bateau.
Alors justement, avant de parler du naufrage en tant que tel, je vous propose un extrait de film. Il y en a eu beaucoup sur cette affaire pour représenter un peu l'attitude de ce Jérémy, maître de son bateau à bord.
Ah oui, donc c'est le film avec Jérémy, c'est pas Exactement. Le film avec d'accord, DiCaprio. Ouais.
Bah oui.
Très bien. Chef, capitaine, enfin je sais pas trop comment vous appeler, désolé. J'ai pas eu ma purée.
Oui, ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite. Attention, on court pas à côté de la piscine.
Pardon, je pensais qu'elle était fermée.
Excusez-moi, et comment on change mes draps dans ma chambre? Parce que j'aimerais bien les changer, j'ai un peu vomi cette nuit.
Tenez, voici un des draps.
Excusez-moi, le radiateur dans ma chambre est cassé, du coup je me suis permis, j'étais dormir dans la salle des machines ce soir.
La salle des machines?
Oui, ça vous dérange pas?
Non, aucun problème, il fera bien chaud là-bas. Alors, 57 ouest, 32 nord.
Oui, il y a un appel pour vous, je crois. Il y a le téléphone qui sonne.
Oui, allô?
Bonjour, c'est pour le courrier?
Ah, le courrier. Je suis pas chez moi actuellement. Vous pouvez revenir dans 3 mois.
Ah d'accord, aucun souci.
S'il vous plaît, j'ai toujours pas eu ma purée.
Oui, tenez, voilà la purée. C'est une pomme de terre, ça ira très bien.
Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus froid là, en ce moment. C'est
oui,
normal.
Bah, prenez un polaire.
On va toujours vers New York.
Oui, on va toujours vers New York. Prenez un pull.
Glace.
Quoi? Non, c'est pas l'heure du dessert encore.
Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de musique? Parce que là, on se fait un peu chier dans le...
Tenez, voici mon piano, jouez avec.
Oh, j'ai le droit de jouer?
Oui, jouez.
Oh, bah, je joue alors.
Excusez-moi, moi je trouve vraiment super ce que vous faites et j'ai pas du tout envie de vous critiquer, mais vraiment là, les odeurs, ça commence à être gênant. Est-ce qu'on pourrait pas réouvrir la piscine juste pour aller se laver?
Je suis désolé, on a des problèmes de tuyauterie actuellement, mais on va s'en occuper.
Monsieur, pourquoi vous avez jeté mes parents par-dessus bord?
Écoute Timothy, c'est glace. Pour la dernière fois. C'est... Il n'y a pas de glace, ce n'est pas encore l'heure du dessert. Ce n'est pas encore l'heure du dessert.
Là, il fait
de
vraiment froid là, je suis désolé.
Oh
là, mais là,
mais non, on a percuté quelque franche. Chose là, qu'est-ce qui se passe?
Oh là, oui, ça penche, c'est... ça
non,
penche,
ça
Jérémy.
Pas, ça penche pas, c'est dans votre tête.
Si, là,
c'est
dans votre tête. La glace, elle est tombée par terre.
Ferme-la, Timothy, ferme-la.
S'il vous plaît, j'ai pas eu ma purée.
Mais vous, fermez-la avec votre purée.
Vraiment, est-ce qu'on pourrait rouvrir la piscine, s'il vous plaît?
Non, la piscine ne sera pas ouverte, arrêtez.
Donc voilà, là on comprend bien les limites du système de Jérémy à tout vouloir contrôler. On n'a aucune place pour gérer les questions des passagers, les petits problèmes qui se passent à bord,
et
les draps
passage,
à changer, etc.
Superbe performance de Nicolas Cage dans le rôle de Jérémy Carvan, qui est vraiment absolument mémorable. Et là, oui, on a du coup le moment où justement le Titanic... Le Titanic rentre finalement dans l'iceberg et percute l'iceberg et commence justement son naufrage.
Oui, parce que donc on l'entend dans cet extrait de film, il y a quand même quelqu'un qui signale qu'il y a cet iceberg.
Oui, oui, oui.
Mais tout le monde pense qu'il s'agit du dessert et que c'est pas l'heure encore, quoi.
Oui,
tout à fait. Et là, tout ce qu'on vous raconte, en fait, on le sait par des récits qui ont été donnés par les 5 survivants. Donc il y a eu 5 survivants au naufrage du Titanic et c'est intéressant, enfin, c'est presque une bénédiction, mais il se trouve que ces 5 survivants étaient à 5 endroits différents au moment du naufrage. Il y en avait un qui était prisonnier à la salle des machines parce qu'il avait contesté. Ils étaient quand même 2 à être dans la cafétéria. Enfin, ce qu'on appelait la cafétéria, en fait, c'était les gens manger à même le sol leur purée dans des assiettes en carton.
Parce que toutes les assiettes avaient été cassées.
Ce qui est faux, c'est que le réalisateur du film, dont on vient d'entendre l'extrait, n'est d'autre que Timothée Chalamet. Le petit enfant
qui a survécu au final.
Ouais,
C'était le premier qui a failli mourir et qui a survécu au final.
Et c'est pour ça que le film est aussi précis historiquement. Bon, après, il a moins fait parler de lui que le film qu'on connaît bien, Titanic. Mais,
bien sûr, qu'on ne s'est pas fabulé.
Il est interdit au moins de 18 ans, surtout, parce qu'il est dur.
Ouais, et puis c'est dommage parce qu'il est sorti 2 ans après, ils l'ont aussi appelé Titanic. Donc forcément. Oui.
La scène de la mort de Jeremy Charbon est terrible.
Oui.
Oui.
Elle est terrible et elle est dure. Mais par contre, très bien interprété par Nicolas Cage.
Hein. Encore une fois, Nicolas Cage, vraiment.
Ouais, un bon acteur.
Donc, il y a le bateau qui rentre dans cet iceberg. Qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, il est dit à ce moment-là, Jeremy Charbon arrache en fait sa chemise, prend un harpon et va à l'assaut de l'iceberg directement.
C'est pas trop contre lui.
En fait, il se rend compte à cet instant que son œuvre, l'œuvre de sa vie, le Titanic, le Hermès Titanic, est sur le point de sombrer. Et en fait, il a une prise de conscience et à ce moment-là, les passagers n'existent plus pour lui, il n'y a que justement son bateau, son paquebot contre justement cette énorme masse de glace. Alors il arrache sa chemise, saisit le premier harpon qu'il trouve et va à l'assaut de l'iceberg.
Il se jette sur l'iceberg au moment où il court sur la proue, se jette sur ce gros glaçon au moment où le bateau vient en contact avec l'iceberg. Et Jeremy Charbon se fait complètement
écrasé entre les deux.
Enfin, tragique, effectivement. Oui.
Et il aurait hurlé à ce moment-là, et c'est ce qui a été gardé dans le film avec DiCaprio et Kate Blanchett, « Je suis le roi du monde ». Donc voilà, et en fait ça a été gardé, alors qu'en fait voilà, cette phrase quand même qui est pour moi historique.
Complètement sortie de son contexte.
Ah, non, voilà. C'était ridicule, ça m'a énervé quand j'ai vu alors que je suis sorti du cinéma.
Jeremy Charbon avait vraiment une bonne raison de crier cela. Il est sur l'avant de son bateau qu'il a construit en train de combattre un énorme bloc de glace. Donc ouais, voilà, j'aimerais qu'on réattribue ces mots finalement à l'homme qui les a prononcés.
Oui, non, c'est un homme mégalomaniaque avec un égo surdimensionné, mais qui a quand même droit à sa part dans l'histoire.
Qu'est-ce qui se passe pour les passagers du navire ? Donc on sait qu'il y en a 5 qui vont survivre. Comment se déroule le naufrage ? Est-ce qu'il y a des bateaux qui viennent au secours ? Il n'y a plus de canots de sauvetage, je crois. Donc...
Non, les secours mettront 2 mois à arriver. Donc les 5 survivants, donc le petit Timothy et les 4 autres dont le nom m'échappe. Hein.
Alors il y avait deux hommes et 2 femmes qui ont réussi à survivre essentiellement grâce aux jeux aquatiques qui étaient présents au bord de la piscine, donc des bouées, des frites, ce genre de choses.
Un gros canard gonflable.
Un gros canard, voilà, tous ces objets flottants finalement, ils ont réussi à tenir en équilibre sur ces objets flottants pendant plusieurs mois. On peut noter le grand courage de ces hommes et de ces femmes qui pendant 2 mois se sont également occupés de cet enfant. D'ailleurs, il leur attribue dans le film, si vous regardez le film jusqu'au bout, parce que ça continue après le naufrage, ces hommes et ces femmes ont vraiment été des héros.
Des héros, c'était vraiment un moment difficile pour eux. Ils se sont occupés du petit Timothy ils se sont sauvés les uns les autres. Jeremy Charbon n'a pas été érigé en héros. Il a été érigé en héros en fait en Irlande. Lorsque au bout d'un mois, on se dit là c'est bon, il doit être arrivé à New York, n'ayant pas de nouvelles de lui. Et ben ils ont érigé une statue. Et 2 mois après, lorsqu'on a redécouvert que le Titanic n'était jamais arrivé à New York et qu'il avait sombré, on a retiré la statue.
Oui.
Et donc, il a été érigé en héros, mais dérigé en héros ensuite.
Et, là, et par contre, oui, il y a toujours cette part de mystère aujourd'hui qu'on garde et que Thomas a emporté dans sa tombe. On ne sait pas ce qui s'est passé lors de ce mystérieux coup de téléphone. Et c'est encore la part de mystère. Et c'est ce qui taraude finalement nos 5 survivants qui diront... Qui disent en fait à la fin du film que voilà, ce coup de téléphone a peut-être changé leur vie et celle des milliers d'autres passagers.
Le mystère de Jeremy Charbon et du Titanic. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré au naufrage du Titanic. Vous retrouvez l'émission sur Pwn.net, toutes les plateformes d'écoute, Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine, nous étudierons un nouveau fait historique.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.